français. Tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Connu les Têtes-Raides, interprétation de La Gueule du Loup, un poème de Yacine Kateb, illustration de notre émission du jour. Bienvenue dans ce nouveau chapitre des Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Et cette semaine, donc, nous allons nous pencher sur les commémorations des 60 ans du 17 octobre 1961. Alors, il y avait une marche traditionnelle à Paris, une marche qui allait des grands boulevards jusqu'au pont Saint-Michel devant la préfecture de police. En fait, le pont Saint-Michel était fermé au public. Seules quelques personnes ont pu aller déposer dans la Seine des fleurs en hommage aux centaines de manifestants français algériens qui ont été massacrés durant cette nuit noire du 17 octobre 61. Et nous avons choisi ce jour-là de nous rendre sur le pont d'Argenteuil, au nord-ouest de Paris, sur un de ces ponts de la mémoire où se sont illustrés, là-bas aussi, les flics du préfet Papon. Nous diffuserons des extraits des prises de parole. Et nous avons choisi des paroles de femmes, il y en avait beaucoup ce jour-là, pour se remémorer ces événements. Et d'ailleurs, vous entendrez dans l'émission des morceaux interprétés par une chorale de femmes algériennes, la chorale Eliane Blédy, c'était le 10 octobre, à Montreuil, autour du même événement. Mais d'abord, nous allons retrouver Marc Plocky, qui a organisé cette semaine, au nom de la nouvelle association Les Amis de Maurice Rachfus, la projection d'un film déjà vieux de 20 ans, sur le 17 octobre, un film de Daniel Kupferstein qui s'appelle « Dissimulation d'un massacre ». Marc était justement présent au pont Saint-Michel dimanche dernier. Il nous dira comment ça s'est passé. Nous irons donc ensuite à Argenteuil et nous diffuserons en fin d'émission des lectures de textes tirés de ces événements tragiques. On commence donc avec Marc, des Amis de Maurice Rachfus.
Oui, ce soir on projette à la MJC des Hauts-de-Belleville le film de Daniel Kupferstein qui s'intitule « 17 octobre 1961 ». Dissimulation d'un massacre. Ce film a été tourné par, réalisé par Daniel Kupferstein, à la fois en écho et en même temps en hommage au film de Jacques Panigel, Octobre à Paris. C'est-à-dire qu'il repart bien entendu des événements. C'est plus un film à chaud comme pouvait l'être celui de Jacques Panigel, mais il retrouve à la fois beaucoup de témoins et beaucoup d'historiens qui viennent appuyer à la fois les thèses de Jean-Luc Hénaudy et puis expliquer comment le pouvoir gaulliste a tout fait, et les pouvoirs qui ont suivi après, pour dissimuler, éviter qu'on parle du massacre, ne pas le qualifier, protéger l'institution policière, etc., etc.
Et tu fais ça aussi sous la houlette de la nouvelle association des Amis de Maurice Rachfus, c'est bien ça?
Alors, c'est la première soirée qu'on organise, c'est la première initiative organisée par l'association des Amis de Maurice qui a été créée au printemps dernier. On s'est inscrit dans le collectif unitaire pour les 60 ans du 17 octobre et on a décidé en lien avec la MJC, puisqu'on a des liens, je dirais, pour plusieurs raisons avec cette MJC, de réaliser cette soirée ce soir, avec à la fois des lectures, une projection de film, celui de Daniel, et après, bien entendu, des échanges avec les présents et les présentes.
Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce qui s'est passé donc le 17 octobre dernier, donc pour les 60 ans? Il y avait plusieurs événements effectivement dans la région parisienne pour commémorer cet événement. Donc toi, tu es donc sur le parcours de Paris, oui. Donc entre le Rex et le Pont Saint-Michel. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, bah déjà il y a eu entre 70 et 80 initiatives, événements. Alors peut-être certainement beaucoup plus. C'est ceux qu'on a pu repérer et puis qui ont eu lieu en banlieue parisienne, dans Paris, dans plusieurs villes, en région également. Et le point d'orgue de ces 60 ans, c'était bien entendu le dimanche 17 octobre, avec pas mal de choses. Aussi à Argenteuil, à la Défense, dans différents endroits, sur les différents ponts où les flics ont massacré. Et puis également une manifestation, une marche qui du Grand Rex au métro Bonne Nouvelle sur les grands boulevards s'est ensuite dirigée vers le pont Saint-Michel.
Pourquoi le Grand Rex, c'est bien...
Alors le Grand Rex, c'est un des endroits où la police s'est, comment dire, illustrée avec une extrême violence le soir du 17 octobre, puisque ils avaient essayé d'empêcher que les cortèges se forment à partir de la banlieue, mais plusieurs milliers de manifestants avaient réussi à rentrer dans Paris, et en particulier des cortèges sillonnaient les quartiers du 2e, du 10e, et il y a eu une chasse à l'homme organisée à partir du cinéma Rex contre tous les manifestants qui se trouvaient à cet endroit-là, avec plusieurs morts, avec des centaines de blessés. Enfin bon, de toute façon, ce soir-là, la police avait décidé de ne pas faire de quartier, et que ce soit devant le Grand Rex, au pont Saint-Michel, on sait qu'effectivement les exactions policières ont été nombreuses, et les milliers de flics et de gendarmes impliqués dans cette affaire, ils sont tous allés de bon cœur pour matraquer, mitrailler, mutiler, jeter à la Seine. On parle de noyer par balle, pour parler souvent de cette soirée, puisque suivant les historiens, on est dans une fourchette de 200 à 300 morts, rien que sur la soirée et la nuit du 17 octobre.
Et donc cette année, donc pour les 60 ans, donc le cortège s'est arrêté, place du Châtelet, c'est ça? Vous n'avez pas pu avancer jusqu'au...
Oui, la préfecture de police a empêché le cortège d'aller au-delà de la place du Châtelet, alors que le préfet allemand, comme un grand tout seul le matin, était allé se mettre au garde à vous sur le pont Saint-Michel en mémoire des morts du 17 octobre, sans préciser quels étaient ces morts, et sans préciser qui avait fait en sorte qu'ils ne soient plus là.
Un peu comme la plaque en hommage à Malik Houssekine, quoi.
On est un peu dans l'euphémisme, c'est-à-dire que on dit les choses, mais on les dit pas jusqu'au bout. Oui. Malik Houssekine, on explique qu'il a été assassiné le 6 décembre 1986, mais on dit surtout pas par qui.
Et donc là, dimanche, ça s'est conclu sur la place, qu'il ne s'est rien passé de plus. Vous avez comme essayé de parlementer pour essayer de...
Non, mais il n'y avait rien à faire. Ils ont simplement laissé passer ce qu'était l'accord passé avec les organisateurs au compte-goutte des délégations pour aller jeter des fleurs dans la Seine.
Okay. À propos justement des archives, parce que la question des archives qui est encore bloquée, là, tu peux nous résumer comment ça se passe?
C'est-à-dire que toutes les archives ne sont pas accessibles encore. Il y a beaucoup de choses qui sont, de la bonne volonté ou non de la préfecture de police, en tout cas pour les archives détenues par la préfecture de police. C'est-à-dire que dans cette histoire, la préfecture de police, elle est juge et partie. C'est-à-dire qu'elle détient les archives et elle décide de qui peut les consulter ou ne pas les consulter. Il y a beaucoup d'archives aussi qui ont disparu. Hein. Jean-Luc Enaudi avait mis le doigt sur le fait que toutes les archives de la brigade fluviale ont disparu avant le départ de Maurice Papon de la préfecture en 1967, et c'est vrai que ces archives contenaient certainement de très très nombreuses traces de tous les noyés récupérés dans la Seine et dans tous les canaux qui donnent dans la Seine.
Et donc l'annonce de Macron de dimanche, finalement, ça n'a réouvert la possibilité d'avoir accès à plus de documents.
Mais il n'a fait aucune annonce. Il a simplement expliqué que le crime était inexcusable et que tout était reposait sur l'action de Maurice Papon. Donc ça veut dire, quand on dit qu'un crime est inexcusable, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'excuse. Et puis quand on pense que quelqu'un a le dos large pour prendre le crime à, comment dire, sur ses épaules, mais en fait, ça évite de nommer les donneurs d'ordre, c'est-à-dire De Gaulle, Frey, Daubré, etc. Enfin, toute la chaîne institutionnelle de la 5e. Et ça évite également aussi de nommer ceux qui étaient à l'œuvre, c'est-à-dire les milliers de flics et de gendarmes qui, ce soir-là, se sont déchaînés de façon meurtrière.
Puis d'ailleurs, je crois que c'est 50 ans les archives, normalement. Normalement, c'est 50 ans après les événements. Et mais là,
même rajouté jusqu'à 60. Même certaines archives, il y a plusieurs lois qui sont passées depuis quelques années qui font même remonter parfois encore un peu plus sous prétexte d'un secret, comment dire, d'un secret d'État. Enfin, tout est fait pour empêcher qu'on aille jusqu'au bout de l'étude de ces archives, oui, bien sûr.
Voilà pour cette première séquence. On retrouve Marc tout à l'heure. Nous partons maintenant sur le pont d'Argenteuil, c'était donc dimanche dernier. Une centaine de personnes étaient réunies sur le pont. Nous avons choisi de ne diffuser que des paroles de femmes. Et il y en avait beaucoup ce jour-là. Des paroles dont celles de deux membres du réseau d'entraide Vérité et Justice, qui portent, comme vous le savez, le combat des familles des victimes de la police. Et comme nous l'avions dit il y a deux semaines, le réseau avait tenté de faire le lien entre les crimes de l'État colonial et les violences d'État d'aujourd'hui, pour notamment aller porter la parole au Pont Saint-Michel. Ça n'a pas été possible, et c'est pourquoi le réseau avait choisi d'aller commémorer les événements à Argenteuil. Voici donc quelques paroles de femmes à propos du 17 octobre 61.
Voilà donc espace associatif et citoyen de proximité, ATMF. Comme chaque année, nous commémorons ce massacre occulté, celui du 17 octobre 1961, où des centaines d'Algériens ont perdu la vie. En effet, Papon est préfet de police durant la guerre d'Algérie, a ordonné l'assassinat de centaines d'Algériens qui manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu discriminatoire. Contre l'oubli, rendons hommage aux victimes de ce massacre des Algériens pour leur indépendance et pour que cette tragédie soit inscrite dans l'histoire de France, 60 ans après. 60 ans pour ne jamais oublier et pour qu'enfin l'on puisse regarder certains pans de notre histoire en face. Nous ne pouvons commémorer cette mémoire sans rendre hommage aux historiens, pardon, qui ont inscrit cette histoire et aux mobilisations de la population et des militants. Ce massacre d'État a longtemps été dénié par les autorités françaises.
Voilà, non.
Dire aussi le rôle des femmes dans cette mobilisation contre le colonialisme. Comment elles ont été parquées ce jour-là? Comment elles ont été humiliées? Comment elles ont été torturées? Ne jamais oublier. Voilà, femmes et enfants parquées dans des stades, dans des gymnases, etc. Sans boire, sans manger. Et torturées surtout. Humiliées, touchées dans leur dignité. Donc tout ça, des milliers de femmes qui sont sorties justement revendiquer ce droit à la libération. Et pour tout cela, donc face à TMF, rend hommage aux victimes aujourd'hui et jusqu'à ce que ce crime d'État soit reconnu. Voilà, donc, Mayakam Shoheda.
Merci Fouzia. Vous savez, c'est parfois peut-être inhabituel pour vous, mais il y a ici beaucoup d'anciens et d'anciennes qui ont vécu dans leur chair ce moment-là, ils sont là. Il y a ceux qu'on connaît, qu'on a déjà croisés au marché, il y a les oncles et les tantes qui sont ici. Certaines veulent prendre la parole, ils prendront la parole, ne vous inquiétez pas, vous la prendrez, c'est une obligation, vous allez dire vos mots. On va donner la parole à Halima Boumediene pour l'association Femmes Plurielles.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Au nom de l'association Femmes Plurielles, nous avons toujours été présentes, bien entendu, à cette commémoration qui est pour nous fondamentale dans la construction et la transmission. Hier, en tant que marcheuse à l'époque de la marche de 83 pour la marche contre le racisme et pour l'égalité, nous avons été en effet les premiers à lever le voile sur ce déni qui existait et notamment sur ce crime qui passait inaperçu de manière inexplicable. Nous avons été les premiers hier parce que nous savions qu'aujourd'hui, ça serait absolument incontournable. Aujourd'hui, oui, c'est important. C'est important à plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est de la transmission que nous avons besoin en tant que femme, qu'homme, que jeune, pour se construire. Mais c'est aussi important parce que c'est inscrire ce crime des femmes dans l'histoire coloniale de la France. C'est aussi important parce que c'est inscrire ce crime d'État dans, comment dire, le combat actuel que nous menons contre le racisme, contre le sexisme, contre l'extrême droite, contre les discriminations, contre tous les crimes et les violences policières. Mais c'est aussi important parce que c'est inscrire ce crime d'État dans l'histoire de la mémoire ouvrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes, ces femmes étaient des ouvriers. Ouvriers et ouvrières enracinés en France, qu'on a négligés, qu'on a refusés et qu'aujourd'hui on dénie. Donc c'est aussi inscrire cette histoire dans la mémoire ouvrière de la France. Et puis pour demain, bien entendu, nous ne demandons pas ni le pardon ni la repentance. Nous demandons tout simplement un devoir de vérité, un devoir de justice. Et ça, c'est important. Ce que nous exigeons, c'est bien entendu, comme on l'a dit, les quatre conditions avec la réouverture totale des archives. Mais si vous le permettez, je rajouterai un cinquième point. C'est inscrire cette date du 17 octobre 1961 dans la liste des commémorations officielles et nationales de la France. Bravo. Il y a aujourd'hui une liste nationale. Bravo. Cette liste nationale. Cette liste nationale inscrit le 8 mai, elle inscrit le 11 novembre. Et pourquoi on n'inscrirait pas le 17 octobre ? Cette liste nationale doit inscrire le 17 octobre 61 dans les commémorations officielles de l'histoire de France.
Bravo !
Merci.
Bravo ! Et dans la foulée, donc dans la foulée de ce qui vient d'être proposé, n'hésitons pas à aller peut-être vers cela. Vous voyez, il y a de plus en plus d'anciens et d'anciennes autour de nous. Là, il y a ma mère, moi je porte. C'est mon père qui m'habille spirituellement. Et là, c'est sa casquette. Il y a des oncles, des tantes, des cousins, des hajj. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, pleins de dignité, qui prendront la parole s'ils le souhaitent, évidemment. On va donner la parole à Anissa. Anissa, c'est la transmission de la mémoire. C'est la génération qui vient. Anissa va vous parler d'une jeune femme à l'époque, le 17 octobre 61, qui s'appelait et qui s'appelle Fatima Bédard.
Elle est de ma famille en plus.
Elle avait 15 ans et on a ici un membre de sa famille. Elle a été tabassée, traumatisée, puis jetée à la Seine.
Désolée parce que je suis pas la meilleure des oratrices, mais quand on m'a proposé de venir et de parler en tant que jeune fille de 16 ans, qui vit dans sa chair ce crime aussi, mais surtout en tant qu'Algérienne, fière, qui tous les jours, finalement, doit se battre pour sa place, je ne pouvais pas dire non. Qui était Fatima Bédard, la plus jeune des victimes du 17 octobre 1961 ? Fatima, la belle adolescente aux 13 noirs, avait à peine 15 ans. Elle vivait à Stain et allait au collège à Saint-Denis. Elle était précocement consciente de sa différence comme celle de ses compatriotes, éprouvée par leurs dures conditions de vie et de travail, et les manifestations du 17 octobre lui ont donné l'opportunité d'exprimer ses sentiments de révolte. Gonflée par son enthousiasme, elle n'a qu'une seule idée, celle de rejoindre les boulevards parisiens et prendre part aux manifestations pacifiques organisées par la Fédération de France du FLN pour dénoncer le couvre-feu raciste imposé alors aux Algériens par la préfecture. Elle n'en est jamais revenue, comme des centaines d'autres victimes. C'était un mardi. En ce temps gris et humide, Fatima s'était accrochée avec ses parents, qui voulaient la dissuader de participer à la manifestation. Mais Fatima, son cartable sur le dos, était monté à Paris. Mais personne n'a réussi à reconstituer son parcours, ni à identifier ses rencontres éventuelles. Elle ne rentre pas le soir et ses parents, après l'avoir cherchée de longues heures en vain, décident de rentrer chez eux, tard dans la soirée, pour l'attendre. Son père signale la disparition de sa fille le lendemain au commissariat de Stein et Saint-Denis. Il a été très mal reçu par la police, avec des insultes, des bousculades, ainsi que des coups. Lui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale pour libérer la France du nazisme. Le corps de Fatima, coincé dans la 7e écluse du canal de Saint-Denis, est repéré par un ouvrier puis remonté à la Seine le 31 octobre. La police de Saint-Denis, qui n'a pas fait d'enquête, a rapidement conclu à un suicide. La vérité a fini par éclater grâce aux investigations en 2003 de l'écrivain Didier Deninx et de Jean-Luc Enaudi. Il a été mis en évidence que le corps de Fatima n'a pas été repêché seul du canal de la mort, mais découvert avec une quinzaine d'autres. Fatima a été tabassée et jetée dans la Seine. Grâce au concours de la fondation du 8 mai 45, sa dépouille est exhumée du cimetière de Stein durant l'automne 2006 pour être transportée en Algérie. Elle est inhumée le 17 octobre 2006 dans le carré des martyrs à Tichy. Repose en paix Fatima, ton sacrifice n'a pas été vain.
Merci Anissa, merci pour ces mots. Que le cœur de Fatima résonne pour toujours. Vous savez, il y a dans cette commémoration beaucoup de douleur, parce que notamment il y a quelqu'un de la famille de Fatima Bédard qui est ici, qui vient de loin aussi, parce que tout ça résonne encore actuellement. Nous allons passer la parole à toutes les associations et collectifs de victimes de violences policières. Donc si Fatou, par exemple, veut venir, quelqu'un de l'Assemblée des blessés.
Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci de nous écouter. Merci de nous donner la parole. Donc je m'appelle Fatou Dieng. Je suis une des sœurs de Lamine Dieng qui a été tuée le 17 juin 2007 à Paris dans le 20e par clé d'étranglement et plaquage ventral. Le comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng ainsi que le collectif Vivolé sont membres du réseau d'entraide Vérité et Justice. Comme d'autres parmi nous. Notre réseau rassemble des collectifs contre les violences et crimes d'État, dont des familles ayant perdu un proche, tué par la police ou la gendarmerie, des familles endeuillées suite à des disparitions forcées, dont le collectif Ayotzinapa présent aujourd'hui, qui porte le combat auprès des familles mexicaines après la disparition en 2014 de 43 étudiants, disparition orchestrée par leur gouvernement. Le réseau rassemble également des personnes mutilées et blessées par les forces de l'ordre, représentées aujourd'hui par l'Assemblée des blessés et les mutilés pour l'exemple. Puis il y a des familles endeuillées par les crimes pénitentiaires, car en prison, en France, des personnes détenues sont torturées et tuées par des surveillants et sous silence. Le réseau d'entraide Vérité et Justice et ses soutiens ont été cette année organisateurs de l'événement du 9 et 10 octobre à la Parole Errante, à Montreuil, et présents aujourd'hui à la marche du 17 octobre pour la commémoration des 60 ans du massacre de manifestants algériens, algériennes à Argenteuil. Malgré la volonté de l'État français d'invisibiliser ce crime pendant des années, cette répression a touché des milliers de personnes, des individus arrêtés, frappés, torturés, des centaines de personnes exécutées et portées disparues. 60 ans après, l'État français ne reconnaît toujours pas ce crime. 60 ans après, il faut encore se battre pour la vérité historique, pour la justice et pour la dignité des survivants de ce massacre pour leurs proches et leurs enfants. Nous, victimes et familles de victimes des violences et crimes d'État, nous exprimons notre immense solidarité face aux personnes aux familles touchées par le massacre du 17 octobre 61. Parce que l'État français exerçait sa violence bien avant 61, à l'encontre des populations colonisées, en Outre-mer comme en métropole. N'oublions pas le massacre de la Saint-Valentin en Guadeloupe, le 14 février 52, lors d'une grève organisée par des ouvriers d'une usine de sucrerie, faisant 4 morts et 14 blessés suite à des tirs de gendarmes et CRS sur la foule. Et hommage aussi aux victimes de mai 67 à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe et tant d'autres. Depuis plus de 50 ans en France, ce sont des personnes issues de l'immigration post-coloniale et leurs descendants qui ont été, dans une écrasante majorité, les victimes régulières, nombreuses et non reconnues de violences et de crimes racistes d'État. De la vague de crimes racistes dans le sud de la France de l'été 73 aux crimes racistes et policiers des années 80 et 90. La violence coloniale, dont le 17 octobre 61 a été une expression massive, s'est poursuivie à la façon d'une guerre de basse intensité contre certaines populations et certains territoires. Aujourd'hui encore, avec une dizaine de morts par an depuis deux décennies au moins et d'innombrables blessés, l'État continue à tuer en toute impunité en poursuivant ses politiques racistes et répressives du maintien de l'ordre, en imposant des lois liberticides, en étendant le permis de tuer avec notamment l'article 435-1 de la loi de sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit et élargit le cadre de la prétendue légitime défense des forces de l'ordre.
60 ans après, les partis politiques au gouvernement ou dans l'opposition, associés à des organisations subventionnées revêtues d'un faux humanisme et de mandats rancis, continuent à enrichir et à entretenir ce racisme systémique plutôt que de le combattre réellement et de le condamner fermement. Plus de 60 ans après, la police tue, viole et mutile. La gendarmerie tue, la prison tue, en toute impunité. Nous sommes face à un déni au plus haut niveau de l'État. Un État qui orchestre ses violences, ses crimes et accorde l'immunité aux agents assermentés. Parce que le 17 octobre 61 s'inscrit dans une macabre et une longue lignée des crimes perpétués par l'État français, nous sommes ensemble les héritiers d'une histoire coloniale meurtrière. Nous nous battons pour établir la mémoire de nos disparus, pour obtenir la vérité, justice et réparation. Ce 17 octobre 2021, une pensée particulière à la famille d'Olivio Gomez, 28 ans, père de famille, abattu par un policier de la BAC le 17 octobre 2020 à Poissy, en bas de son domicile. Le réseau d'entraide, vérité et justice sera présent aux côtés de sa famille cet après-midi pour une marche en sa mémoire. Le collectif Olivio est l'un des collectifs des familles de victimes des membres du réseau, car nous nous unissons dans nos douleurs, malheureusement de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus liés, déterminés pour réclamer et exiger vérité et justice pour toutes les victimes disparues, tués, blessés et mutilés par les forces de l'ordre et de l'administration pénitentiaire, d'ici et là-bas, d'hier et d'aujourd'hui. Nous apportons tout notre soutien au collectif de victimes contre le racisme systémique, les violences et crimes d'État, aux familles des disparus, aux familles endeuillées d'en bas et à gauche. Nous exigeons le respect de la liberté pour toutes et tous, avec un même traitement juridique et social, une justice équitable. 17 octobre 61, 17 octobre 21, ni oubli, ni pardon. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes de violences et crimes d'État. Pas de justice ! Pas de justice ! Vous n'aurez jamais la paix, messieurs, dames. Jamais.
Nous allons donner la parole à Élise Languin, parce que nous allons nous poser aussi tout à l'heure une plaque commémorative, beaucoup plus belle de toutes celles qui ont été posées, on vous expliquera pourquoi. Alors, Élise Languin, qui est historienne par ailleurs.
En 2005, professeur d'histoire, avec d'autres, nous nous sommes vus imposer la loi du 23 février 2005 qui stipulait dans son article 4 que les programmes scolaires devaient reconnaître le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et ce rôle positif de la colonisation. J'en ai entendu à nouveau les effets récemment. L'article 4 en question, il a été abrogé finalement en janvier 2006, ainsi que la notion d'histoire officielle qu'il imposait. Mais le colonialisme a la peau dure et quelques jours avant cette commémoration, et celle de l'indépendance de l'Algérie un peu plus tard, M. Macron a attribué au bénéfice de la colonisation française la conscience, la formation de la conscience de la nation algérienne, ce qui est une insulte suprême à un peuple qui a subi une colonisation particulièrement cruelle pendant 132 ans et qui a mené une guerre d'indépendance extraordinaire. Et il faut entendre que formulé dans les termes du 19e siècle, cette colonisation, c'était le devoir que s'imposaient les races supérieures pour civiliser les races inférieures. Et dans la discrimination des populations colonisées, il reste de cela. Et dans les propos de M. Macron, il reste de cela. Je voudrais préciser, du point de vue des historiens, quelque chose. Certes, M. Macron ignore des noms. Il ignore ceux de M. Michel Debré, de Roger Frey, du gouvernement du général de Gaulle. Mais en même temps, alors que c'était dans les recommandations, la liste des arrestations, alors 12 500, 14 500 arrêtés, elle est inaccessible aux archives. Actuellement, nous ne pouvons pas connaître les noms des 12 000 personnes arrêtées et parquées ensuite le 17 octobre. Il y a d'autres noms que nous ne connaîtrons jamais, ceux qui sont, dont les corps sont partis dans les eaux de la Seine. Ceux-là sont des disparus et c'est à eux aujourd'hui que nous voulons avant tout rendre hommage. Et j'ajouterai que pendant ces 60 ans, il n'y a jamais eu sur ce pont d'Argenteuil une plaque commémorative pour célébrer les morts qui ont été jetés à la Seine de ce pont, car il y en a eu. C'est pourquoi nous présentons et nous voudrons accrocher cette plaque dont je vais vous lire le contenu. Le 17 octobre 61, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour le droit à l'indépendance de leur pays, la fin d'un couvre-feu discriminatoire et des violences policières racistes, de très nombreux Algériens et Algériennes furent massacrés à Paris et jetés dans la Seine par la police nationale dirigée par le préfet de police Maurice Papon sous l'autorité de Gaulle. Chaque 17 octobre, la population se rassemble ici sur le pont d'Argenteuil pour honorer la mémoire des victimes et dénoncer ce crime d'État.
شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
Dont les amis d'Orwell, c'était la chorale Eliane Blédy, enregistrée il y a une semaine à Montreuil. On termine cette émission plus courte que d'habitude sur des textes à propos de ce 17 octobre, choisis par Marc de l'association Les Amis de Maurice Rachfus. Alors, les références sont à retrouver sur le site internet de l'asso qui vient juste d'ouvrir. C'est mauricerachfus.org. 5 textes sur les événements signés Jean-Luc Enodi, Leïla Sebar et donc Maurice Rachfus.
Le premier texte, c'est un texte de pris dans le octobre 61, Un massacre à Paris de Jean-Luc Enodi, qui a été réédité dans la collection Pluriel, on le trouve facilement en librairie. Ce texte, il a comme intérêt, c'est qu'il montre comment, avant le 17 octobre, tout avait commencé, tout était en place pour le massacre, et comment les policiers parisiens déjà se comportaient avec les Algériens, aussi bien dans les garnis à Paris que dans les bidonvilles à Nanterre ou à d'autres endroits de la banlieue parisienne. Donc là, on est page 263 de ce livre de Jean-Luc Enodi, donc un livre qui est paru plus de 10 ans après la bataille de Paris. Zerwa Lossine, originaire de Tizi Ouzou, est arrivé en France en 1960. Il ne parle et ne comprend que le kabyle. Ouvrier spécialisé à l'usine Magie, porte de la Villette, il est ce jour-là, 16 octobre, en arrêt maladie. Il demeure dans un hôtel, 43 rue Marcadet, dans le 18e. Il est convoqué pour 14 heures au contrôle médical de rue de Lobo, dans le 4e. Comme il ne sait pas s'orienter dans le métro, il va prendre un taxi avec un ami, Lofti Mohamed, qui parle français et l'accompagnera. À 13h30, explique-t-il, lorsqu'ils sortent de l'hôtel, une rafle a lieu dans la rue Marcadet. Jusqu'à présent, il a eu la chance de n'être jamais arrêté. Sur le trottoir, 4 policiers en tenue les arrêtent alors, leur font mettre les mains en l'air et les fouillent. Il a déjà vu ces policiers dans le quartier. Ceux-ci déchirent ses papiers. Un brigadier âgé, grisonnant, de grande taille et de forte corpulence, se tient avec le chauffeur dans le car qui stationne à proximité. Sur son ordre, les policiers frappent les deux hommes à coups de bidule, une sorte de manche de pioche. Zerwa Lossine est atteint au bras gauche, à la main gauche, à la tête et au dos. Gravement blessé, il reprend conscience au poste de police de la Vigie-Fleury, boulevard de la Chapelle, où il est à nouveau frappé. De force, des policiers lui font avaler du savon noir dans un bol, manger 4 paquets de gauloises et 4 paquets de gitanes et boire de l'urine. Puis, on lui fait nettoyer le sol avec ses vêtements. Dans la nuit, vers 1h30, il sera d'abord conduit à la porte de la Villette, puis au centre d'identification de Vincennes, où, à son arrivée, il sera à nouveau frappé à la tête par des gendarmes mobiles et des supplétifs de la force auxiliaire de police. À l'intérieur du centre, beaucoup d'hommes sont blessés. Un jeune homme est inanimé après avoir subi le supplice de l'eau, puis reçu des coups de pied. À nouveau en état de perte de connaissance, Zerwal Hossine sera réveillé par des coups de pied assénés par un policier. Il sera libéré à 15h30 dans l'après-midi du 17 octobre. Gravement blessé, il se rendra à pied au métro Château de Vincennes. L'argent qu'il avait sur lui a été volé par des policiers. Un Français et sa femme, le voyant ainsi, le raccompagneront jusqu'à son hôtel où une ambulance viendra le chercher le même jour pour le transporter à l'hôpital Bichat. Il a notamment un bras brisé, une fracture à la main et souffre d'un traumatisme crânien. Il sera hospitalisé à Bichat durant 44 jours, puis séjournera en maison de convalescence à Saint-Maurice jusqu'au 16 février 1962. Son bras devra être opéré 3 fois et nécessitera la pose d'une broche. Zerwal Hossine demeurera pour toujours invalide, ne pouvant plus jamais travailler normalement. Les suites du traumatisme crânien le conduiront d'hospitalisation en hospitalisation. Témoignage de Zerwal Hossine, 14 mai 2001. Ensuite, je vous propose une lecture de Leïla Sebar, qui provient de son très, très beau livre, La scène était rouge, en tout cas le livre très émouvant, qui est à la fois un livre de fiction, puisqu'il évoque deux jeunes qui veulent tourner un film sur le 17 octobre, et en même temps des espèces de réminiscences de la femme qui écrit le livre. On ne sait pas si c'est Léa Sebar ou quelqu'un d'autre, mais la femme qui écrit le livre se rappelle de ce que sa mère lui a raconté. Donc on est page 45 et le chapitre s'appelle « La mère ». Ce jour-là, c'était un mardi, je crois. J'ai vu ma mère fouiller dans les valises où elle rangeait le linge. Comme si on allait partir en voyage, les valises étaient toujours pleines. Deux pièces sans armoire ni placard, le vieux coffre de la famille, je ne l'ai jamais vu. Ma mère en parlait chaque fois qu'elle devait nous habiller en dimanche. La bassine était prête pour le bain des enfants. Entre des planches qui servaient de cour intérieure, ma mère nous a lavé, moi d'abord, la plus petite, puis mes frères. On a mis nos plus beaux habits. Mon père m'a dit « Tu es toujours la plus jolie, ma fille ». J'étais fier, il me prendrait par la main et on marcherait dans la ville. Il a dit à ma mère « Tu pars avec la petite, moi je prends les garçons, vous risquez rien, tu le sais ». J'ai pas compris pourquoi on se séparait et pourquoi on aurait dû avoir peur. Il a ajouté « C'est pacifique ». Il a répété plusieurs fois « pacifique ». Je savais pourquoi il employait ce mot-là et à 3 reprises. Sur la carte du monde, j'avais lu sur le bleu « pacifique ». J'ai pas posé de questions, mon père était grave, préoccupé. On n'allait pas en promenade à la fin de la journée, c'était bizarre. Mes frères ne parlaient pas, ils se tenaient par la main, près de mon père. Sa moustache était noire, plus épaisse, j'ai trouvé. Il avait mis une cravate, une belle chemise, une veste en velours. Je lui ai dit « Pourquoi tu t'habilles pas toujours comme ça ?» Il m'a pas répondu, il m'avait peut-être pas entendu. On a pris le bus, ma mère serrait ma main. Les voisines ne bavardaient pas comme d'habitude, on était ensemble, on se taisait. La Défense, l'Étoile. Le chauffeur s'est arrêté. C'est là que j'ai eu peur. Des policiers ont fait descendre les hommes, pas tous, ceux qui avaient l'air d'Algériens. J'ai vu ces hommes debout, les mains en l'air, à côté du bus, les policiers avec des matraques. J'ai regardé ma mère, elle m'a souri. Sa main était chaude, je n'ai pas pleuré. Je n'avais jamais vu Paris, c'était Paris et je ne voyais rien. Seulement des hommes, comme mon père, les mains sur la tête. Les policiers français et d'autres policiers, avec des calots bleus, arrêtaient les voyageurs qui sortaient du métro. Ils les faisaient monter dans les cars. Certains donnaient des coups à ceux qui marchaient pas assez vite. La main de ma mère était chaude, un peu humide. Elle parlait pas, les autres femmes non plus. Elles sont descendues, nous aussi, elles ont dit aux chauffeurs et aux policiers, « On rentre chez nous avec les enfants ?» C'était pas vrai, j'ai entendu ma mère dire à sa voisine « République ». Pourquoi République ? À l'école, j'ai appris la République en histoire, mais là, c'était un mot de passe, c'est ce que j'ai pensé. Plus tard, ma mère a raconté à mon père et à son amie française, la femme médecin qui venait au bidonville, c'est devenu une amie, tu le sais, c'est Flora, ta mère. Elle a raconté que ce soir-là, assise dans le bus, elle avait vu de loin, les policiers ne faisaient pas attention à eux, un homme, un Français, grand et mince, qui tenait un jeune Algérien par le bras comme s'il le connaissait. Il a marché un moment avec lui, un long moment, pour qu'il ne soit pas embarqué par les flics. Ma mère disait qu'elle était sûre que le français avait voulu sauver les jeunes Algériens. Elle a peut-être raison. Le troisième extrait, c'est un extrait de Jean-Luc Enaudi. En 2001, en hommage à Élie Kagan, Jean-Luc Enaudi a édité chez Actes Sud un livre qui s'appelle « 17 octobre 1961 », avec l'ensemble des photos d'Élie Kagan de la soirée du 17 octobre. Et c'est un livre hommage au travail d'Élie Kagan. Nous sommes page 7. Le passage s'intitule « Élie Kagan, le témoin ». 17 octobre 1961, c'est un mardi et il pleut sur Paris. En ce début de soirée, le photographe Élie Kagan se trouve sur les grands boulevards, là où il y a tant de choses à voir, comme le chantier Yves Montand, mais il n'est pas là pour y flâner. Il a été prévenu, comme quelques journalistes, que les Algériens vont manifester à l'appel du FLN. Le préfet de police de la capitale du pays des droits de l'homme s'appelle Maurice Papon. Il est en fonction à Paris depuis le mois de mars 1958 et fait figure d'exemplaire grand serviteur de l'État. Auparavant, durant presque 2 ans, il a coordonné l'action des forces civiles et militaires dans l'Est algérien. Tortures, exécutions sommaires, zones interdites, camps de regroupement ont été le quotidien de la pacification conduite sous ses ordres. Il a mis à profit son expérience algérienne pour maintenir l'ordre à Paris. Depuis 3 ans, l'action policière contre le FLN a pris le caractère d'une répression collective contre l'ensemble des Algériens de la région parisienne. Les rafles se succèdent. La torture s'est installée dans Paris déjà depuis plusieurs mois. Une force auxiliaire de police composée de supplétifs d'origine algérienne, encadrée par des officiers français, agissant sous les ordres du préfet de police, multiplie les actions. Un camp d'internement fonctionne en plein bois de Vincennes. Élie Kagan se sent solidaire des Algériens raflés, méprisés, maltraités depuis déjà si longtemps dans les rues de Paris, dans l'indifférence ou l'hostilité de l'opinion publique française. L'enfant juif qui a porté l'étoile jaune et miraculeusement échappé à la déportation et à la mort continue à vivre en lui. Il sait reconnaître le racisme. Il ignore pourtant alors que le préfet de police du général de Gaulle a été autrefois, sous Pétain, l'organisateur des rafles des juifs de la région de Bordeaux, de leur internement dans le camp de concentration de Mérignac, puis de leur déportation vers le camp de Drancy, d'où ils sont partis pour l'extermination. Qui s'en est d'ailleurs soucié ? Quand, en août 1958, Maurice Papon a organisé des rafles d'Algériens et leur internement au Veldiv, seules quelques voix d'anciens résistants se sont élevées contre cette infamie, n'ayant pas oublié à quoi avait servi ce lieu quelques années plus tôt. Toujours dans ce même livre, un extrait du petit livre gris d'Élie Kagan qui est déposé à La Contemporaine à Nanterre. 17 octobre 1961. Plus tard, on appellera cette chaude journée ratonnade à Paris. Des Arabes par milliers, Concorde, Solferino, rue de Lille, homme casqué, ma peur qui me surprend. Octobre 61, juillet 42. Octobre 61, juillet 42, métro, wagon bondé, français nés contre vitre, indifférents, on tire, on tue et puis on efface vite. Et moi, seul, tout seul, avec ma peur au ventre, qui fait mon métier d'homme, et fixe pour toujours le crime, l'assassinat, la mort des innocents, en espérant naïf que peut-être les images réveilleront les autres, amorphes, endormis, égoïstes ou pourris. Sur le quai du métro, je photographie un arabe qui souffre, une balle dans l'épaule. Il est là, grimaçant, pleurant. Une femme s'approche, casquette galonnée, elle me dit « Savez-vous qu'il est interdit de prendre des photos sur le quai du métro ?» Alors je ne me retiens plus et lui hurle « Comment ? Des hommes pleurent, souffrent, et vous me dites à moi, qui fais mon métier d'homme, qu'il est interdit ? Mais qui êtes-vous donc ? Créature insensible, chrétienne, syndiquée, communiste, CGT ? Tout à l'heure, quand des flics poursuivaient ces malheureux, vous n'avez même pas pensé à leur dire que c'était interdit de tuer d'autres hommes, de les poursuivre jusque dans le métro. Et puis je l'ai giflé, des souvenirs qui m'assaillent, 16 juillet 42, de Veldiv plein de juifs, français indifférents, et partent, puis meurent au loin, innocents, innocents, et moi j'ai survécu, j'ai lu, j'ai étudié, réussite, faire ce que je veux, faire ce que je dois. Pour terminer cette lecture, j'ai pris dans un recueil commun à Jean-Luc Enaudi et Maurice Rachefousse un texte de Maurice qui s'intitule « De la Francisque à la Croix de Lorraine, du Veldiv au Pont Saint-Michel ». sommes à la page 24, puis ensuite on sera à page 29 et 30. De la Francisque, du maréchal Pétain à la croix de Lorraine du général de Gaulle, les policiers parisiens n'ont pas éprouvé de honte à changer de décoration. De la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942 avec ses 13 000 victimes vouées à la mort, au pont Saint-Michel où des policiers jetèrent les Algériens à la Seine le 17 octobre 1961, une répression sélective succédait à une action massive pour alimenter les camps d'extermination nazis. D'un crime à l'autre, il aura fallu moins de 20 ans avant que les mêmes policiers parisiens retrouvent parfois leur mauvais instinct. Après avoir pourchassé des juifs, voués aux chambres à gaz, ces défenseurs supposés de l'ordre public traquaient des Algériens, ce qui permettait de réactiver de sinistres souvenirs pendant les moments de montée d'adrénaline durant l'attente dans les quarts de police. Un peu plus loin, durant les sombres années de la guerre d'Algérie, les traqueurs de juifs ne perdaient pas la main en se livrant à la chasse aux Algériens. Cette véritable guerre contre les Bougnoules, conduite dans Paris, eut son point d'orgue le 17 octobre 1961, lorsque, sous les ordres du préfet de police Papon, des centaines d'Algériens furent froidement assassinés par des policiers dont un certain nombre avait certainement officié sous Vichy au temps des rafles avec des juifs pour victimes. Combien de ces policiers, encore sous le casque en mai 1968, s'appliquèrent à matraquer et à gazer férocement des milliers d'étudiants et de contestataires qui proclamaient qu'ils voulaient changer le monde. Le temps a fait son œuvre. Et les policiers qui, durant 4 ans, ont mangé sans vergogne le pain de la Gestapo, ont, pour la plupart d'entre eux, rejoint un monde meilleur. Pourtant, comme il y a de fortes traditions dans la police, il reste toujours une masse de suspects à surveiller, à contrôler, à réprimer, si cela s'avère nécessaire. Après les juifs et les communistes, les Algériens et les blousons noirs, après les étudiants et les lycéens, il y a les jeunes des banlieues et les sans-papiers, les sans-logis et les précaires. Tous ces sangs menacent une société qui n'aime pas le désordre.
Voilà, les amis d'Orwell, c'est terminé. À propos des films et des livres abordés dans l'émission, eh bien rendez-vous tout simplement à la librairie Publico, rue Amelot, dans le 11e. Et nous mettrons les références sur notre site sourier.info, sourier EZ, n'oubliez pas. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée au SNU, le Service National Universel, et à la propagande militariste qui se porte comme un charme, vous le verrez. Donc vendredi 5 novembre sur Radio Libertaire à 21h. Et à ce propos, nous travaillerons avec l'équipe de l'émission de l'Union Pacifiste, Civis Pacem, sur Radio Libertaire, les jeudis à 18h. Voilà, bonne fin de soirée.
Oh, yeah, man, feel. Oh, cool, oh, let me, man. الأولى نقولوا جازت شوهدنا بالعشرية بالمصالح الشخصية فالربع الكوبية ماتت وما زالت القضية ساعات الفجر وما جاني نوم عليكم صومي غير بشوية شكون السبب وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية ساعات الفجر وما جاني نوم عليكم صومي غير بشوية شكون السبب وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية والخمسة راهي تسويني بيناتهم راهي مبنية والباسي راه ماشيني نهبط على الحورية في راجنا نهضر قريبي يا عرفو كي تقية مدرسة ولازم سيبي بيرو نحكي الأمية ساعات الفجر وما جاني نوم رانيكم صومي غير بشوية شكون السبب وشكون اللوم ملينا للعيشة هادية ساعات الفجر وما جاني نوم رانيكم صومي غير بشوية شكون السبب وشكون اللوم ملينا للعيشة هادية
Première chanson, ça s'appelle